Changer mon masque. Sinon vous avez l'impression que je suis bâillonné, c'est ça? Bonjour à toutes et tous qui êtes présents ici. Bonjour à tous nos frères et sœurs, toutes les personnes qui suivent aussi le culte à distance depuis leur canapé ou leur lit. On ne sait pas trop, hein. Très heureux d'être avec vous ce matin. Et pour choisir le texte biblique pour vous apporter la parole du Seigneur ce matin, j'ai demandé à Clémence et Mathilde s'il y avait un texte qui les intéressait plus spécialement. Et leur réponse m'a un peu étonné, parce que le texte dont elles m'ont parlé, c'était un texte que j'avais sans doute déjà lu, mais après j'avais complètement oublié. Je ne me rappelais absolument pas qu'il y avait ça dans la Bible. Et comme donc ça m'a intrigué, j'ai lu, et puis comme souvent quand on s'intéresse à un texte biblique, et bien à un moment donné on est un peu aspiré dans le texte, et puis on découvre des choses intéressantes, des enseignements aussi pour nos vies. Donc merci Mathilde et Clémence d'avoir suggéré. Si vous voulez savoir pourquoi elles m'ont proposé, vous pourrez aller leur demander à la fin du culte. Et j'espère que vous aussi vous apprécierez les enseignements qu'on retire de ce texte. C'est le chapitre 13 du premier livre des Rois dans l'Ancien Testament. C'est une histoire étonnante. Une histoire étonnante où les paroles jouent un rôle important. Les paroles de Dieu, la parole des hommes. C'est un drame en trois actes qu'on va lire les uns après les autres. Mais avant de commencer à lire, on va planter le décor. On est en moins 925 à peu près, une journée. Tout va se passer sur une seule journée. Et nous sommes à Bethel, qui se situe à peu près 10 km au nord de Jérusalem. Ça va? Vous êtes prête? Un homme de Dieu, on peut afficher aussi le texte derrière, dans la version Nouvelle Bible Second. Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole du Seigneur, pendant que Jéroboam se tenait debout devant l'autel pour offrir de l'encens. Il cria contre l'autel par la parole du Seigneur.
Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les prêtres des hauts lieux qui offrent de l'encens, et on fera brûler sur toi des ossements humains.
Ce même jour, il donna un présage en disant:
Tel est le présage indiquant que c'est le Seigneur qui parle. L'autel se fendra et les cendres grasses qui sont dessus se répandront.
Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il leva la main de dessus l'autel en disant:
Saisissez-le.
Alors la main que Jéroboam avait levée contre lui fut paralysée. Il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et les cendres grasses qui étaient dessus se répandirent, selon le présage qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole du Seigneur. Le roi dit à l'homme de Dieu:
Apaise donc le Seigneur, ton Dieu, et prie pour moi afin que ma main me revienne.
L'homme de Dieu apaisa le Seigneur et la main du roi lui revint. Elle fut de nouveau comme par le passé. Le roi dit à l'homme de Dieu:
Entre avec moi dans la maison pour te restaurer et je te donnerai un cadeau.
L'homme de Dieu dit au roi:
Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai rien, je ne boirai rien en ce lieu. Car cet ordre m'a été donné par la parole du Seigneur. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé.
Il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Voilà, premier acte de notre récit. On va afficher une carte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, on voit que Bethel, on voit Jérusalem, et Bethel, c'est le petit triangle rouge juste au-dessus, donc c'est assez proche. Mais à l'époque, déjà, Bethel et Jérusalem n'étaient plus dans le même pays. Bethel était dans le royaume du nord, le royaume d'Israël. C'est le royaume de David qui avait été coupé en deux. Il y avait le grand royaume du nord, Israël, et le plus petit royaume de Juda au sud, autour de Jérusalem. Et Jéroboam, c'est le roi du nord. Donc on m'a dit dans mon oreillette qu'il y avait les Petit-Jean qui étaient connectés. Donc juste pour Claude Petit-Jean, Jéroboam ici, c'est un roi, hein, parce que c'est aussi, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une contenance de bouteilles de vin. Après, il y a le Magnum, le Jéroboam. Voilà, donc là, on parle bien du roi d'Israël, Jéroboam. Et Jéroboam, il a mené cette révolte contre les fils du roi Salomon. Et au départ, Jéroboam suivait le chemin que Dieu lui avait indiqué. Mais il a eu peur. Il a eu peur que les habitants de ce nouveau pays, de ce nouveau royaume, aient la nostalgie de Jérusalem, la nostalgie du temple. Et donc, il a décidé de créer une nouvelle, presque une nouvelle religion, ou en tout cas un nouveau culte. Il a décidé de créer un temple à Bethel et puis un autre tout au nord à Dan. Il a décidé de nommer des prêtres qui n'étaient pas lévites. Il a décidé de nouvelles dates pour les fêtes, etc. Mais voilà, du coup, il n'était plus dans ce que Dieu avait mis en place pour le célébrer, qui était le temple de Jérusalem. Et le jour où l'histoire se déroule, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le roi lui-même vient apporter une offrande sur ce nouveau lieu de culte qu'il a mis en place. Mais un homme, et il va gâcher la fête. Cet homme, on ne connaît pas son nom. On sait juste qu'il vient de Jérusalem. Sa profession, homme de Dieu. C'est une manière de dire prophète, en fait. Et ce qu'on sait surtout, c'est qu'il agit par la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'il suit ce que Dieu lui demande de faire. Et on va retrouver cette expression « par la parole du Seigneur » tout au long de notre histoire. Parole du Seigneur, parole des hommes. Avant d'aborder le deuxième acte, ce premier acte qui a un petit peu posé le décor, deux choses que j'aimerais souligner. La première chose, c'est que, vous avez entendu, cet homme de Dieu, il annonce une prophétie. Jéroboam n'aura pas de dynastie parce qu'il s'est détourné de Dieu. Et il y a un signe qui accompagne cette prophétie, l'autel qui avait été construit, c'est fendu. C'est impressionnant. Et c'est un rappel que la parole de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu est efficace, elle a de l'effet. Et c'est une grande différence avec notre parole. Notre parole produit rarement ce qu'elle prononce et ce qu'elle pense. C'est une des différences avec la parole de Dieu. Mais attention, on peut se dire, oui, c'est vrai, nous, notre parole ne produit pas d'effet. La parole de Dieu, elle produit un effet. C'est vrai, par exemple, pour la matière. On ne peut pas, d'un claquement de doigts, avoir fait la vaisselle ou d'un claquement de doigts, avoir préparé le repas. Mais par contre, notre parole, elle a un effet sur ceux qui nous entourent. On a parlé d'amour un peu avant. Et notre parole, elle peut blesser ou elle peut aimer. Notre parole, elle peut enfoncer quelqu'un ou elle peut relever. Nos paroles peuvent rejeter ou elles peuvent accueillir. On peut haïr, on peut aimer. Et ces paroles-là ont un effet. Et c'est un des aspects de la parole de Dieu qui s'accomplit toujours. Il y a une partie de nos paroles aussi a de l'effet et peut accomplir des choses dans la vie des autres. Faisons attention à nos paroles et on verra qu'après, dans la suite de notre texte, certaines paroles humaines peuvent faire de grands dégâts. La seconde chose que j'aimerais souligner, c'est la force de caractère de ce jeune prophète. Je dis jeune parce qu'on verra qu'après, il y a un plus vieux qui va arriver dans l'histoire. Il est invité à manger par le roi et il refuse. Alors on estime qu'il y a à peu près 10 km entre Jérusalem et Bethel. Donc à Dodane, c'est peut-être 2-3 heures. Mais voilà, maintenant, il a fait cette prophétie, le message est passé au roi. Il pourrait se dire, ça y est, le travail est terminé, j'ai droit à une pause. Mais il refuse. Pourquoi ? Parce que il veut obéir à la parole qui lui a été donnée. Un ordre lui a été donné par Dieu et il veut s'y soumettre. Et donc, il refuse l'offre du roi et il repart. Deux choses qu'on peut déjà voir dans ce premier acte. Quand Dieu parle, ce qui est annoncé se produit. Quand Dieu parle, la réponse qui est attendue de l'homme, c'est l'obéissance persévérante, comme le cas de ce jeune prophète. On va continuer notre lecture. Deuxième acte. On va afficher le texte. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel, les paroles qu'il avait dites au roi, et ils les racontèrent à leur père. Leur père leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il suivit l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit
« Est-ce toi l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?»
Il répondit
« C'est moi. »
Alors il lui dit
« Viens manger avec moi à la maison. »
Mais il répondit
« Je ne peux ni revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, je ne boirai rien avec toi en ce lieu, car il m'a été dit, par la parole du Seigneur, là, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. »
Il lui dit alors,
« Moi aussi, je suis prophète comme toi. C'est un messager qui m'a dit, par la parole du Seigneur, « Ramène-le chez toi, qu'il mange et qu'il boive. »
Il lui mentait. L'homme de Dieu revint avec lui pour manger et boire. Nous sommes toujours à Bethel. Jéroboam a disparu, mais un nouveau personnage apparaît, un vieux prophète. Et on peut deviner que ce vieux prophète n'était pas un supporter de Jéroboam. Il n'avait pas fait le déplacement à l'autel pour venir voir l'offrande que le roi allait faire, puisque c'est ses enfants qui doivent lui parler et lui rapporter tout ce qui s'est passé. On peut imaginer qu'il se dit « Enfin quelqu'un qui ose dire au roi ces quatre vérités, qui ose prendre la parole. Il faut que je rencontre cet homme, faut qu'on discute, faut qu'on échange. » Et il part à la rencontre de ce prophète, de ce jeune prophète du coup. On va l'appeler jeune prophète. Il le trouve en train de se reposer. Ce jeune prophète qui n'a rien mangé depuis le matin, rien bu, il doit faire chaud, donc il s'est mis à l'ombre d'un arbre. Puis beaucoup d'émotions, on imagine aussi. Hein. Il a dû aller parler au roi, il a dû voilà, il a vu l'action de Dieu en direct. Il a bien mérité une pause. Et quand on regarde le dialogue entre ce jeune et ce vieux prophète, on voit que pour le vieux prophète, il souhaitait absolument inviter cet homme, il souhaitait lui offrir l'hospitalité, lui faire une faveur. Pourtant, on sait que les fils avaient raconté tout ce qui s'était passé le matin. Sans doute que ce vieux prophète savait que ce jeune n'avait pas le droit de rentrer chez lui directement. Et pourtant, il l'invite, il tente sa chance. Dans un premier temps, le jeune prophète ne change pas d'avis. Il veut suivre la parole du Seigneur. Et c'est à ce moment-là que la relation, ce dialogue dérape, et des deux côtés, ça dérape. Le vieux prophète veut absolument arriver à ses fins. Comment est-ce qu'il va y arriver ? Pour commencer, il va le mettre en confiance. Moi aussi, je suis prophète, comme toi. On est entre collègues, chers amis, on se soutient, on se comprend. Une mise en confiance pour commencer. Un mensonge pour terminer. Et ce mensonge-là, il est camouflé sous une apparence spirituelle. Moi aussi, je te parle par la parole du Seigneur. Oui, Dieu, il te parle, mais moi aussi, Dieu, il m'a parlé. Dieu, il m'a dit, je dois t'inviter. Mettre en confiance et ensuite mentir. Et en face, le jeune prophète, il craque, il accepte de suivre son collègue. Là aussi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont dû jouer. Effectivement, il a été mis en confiance. En plus, c'est un collègue plus âgé, un vieux prophète. Et on sait que dans les cultures orientales, l'âge est un facteur de respect important. On va respecter d'autant plus et obéir d'autant plus à quelqu'un qui est âgé, qui a une autorité. Ce jeune prophète était dans une situation de faiblesse physique. Il avait faim, il avait soif, il était sans doute fatigué. Et on sait que dans un bâtiment ou dans la nature, quand un arbre va craquer, c'est qu'il y a un endroit de faiblesse. Et là, il y a un point de faiblesse chez ce jeune prophète. Ses besoins physiques, de manger, de boire, tout simplement. Et enfin, cet argument spirituel. Dieu m'a dit que tu dois venir manger chez moi. Il a été accepté trop facilement par ce jeune prophète, n'est-ce pas ? Ce jeune prophète avait eu l'ordre complètement inverse. Ne mange pas. Et là, quelqu'un lui dit, mais Dieu a dit, mange. Là, il y avait vraiment deux sons de cloche très différents. Et il choisit la solution qui lui permet de répondre aussi à ses besoins physiques. Donc, tous ces éléments mis ensemble, le respect pour la personne âgée, la mise en confiance, les besoins physiques, cet argument spirituel qui vient un petit peu comme le jeune craque. Et suit son vieux collègue. Alors que peut-on retenir de ce dialogue où on voit que là, la parole humaine a un impact important, qu'elle peut être utilisée pour le bien, mais elle peut aussi être utilisée pour le mal. Je pense que ça nous renvoie à nos propres attitudes. Et la première question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où est-on prêt à aller quand on veut convaincre quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un. Les intentions du vieux prophète étaient sans doute pas mauvaises au départ. Il voulait offrir l'hospitalité, sans doute discuter de ce roi Jéroboam qui fait n'importe quoi. Mais la manière de faire est catastrophique. Mettre en confiance, mentir. En fait, il a manipulé. Il a manipulé ce jeune prophète pour arriver à son but. Et tout ça avec des arguments spirituels. J'ai eu une révélation. Un ange m'a dit. Dieu m'a dit. Parfois, on se demande ce que dans les 10 commandements veut dire « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». Je pense que là, on a vraiment un exemple typique de ce qu'est utiliser le nom de Dieu en vain. On utilise Dieu comme un outil pour arriver. Et je pense que c'est pour nous une mise en garde contre la tentation de vouloir forcer la main des gens avec qui on vit ou avec qui on discute, de vouloir convaincre à tout prix, de vouloir priver de la liberté, de ne pas être d'accord, de dire non. C'est vrai dans beaucoup de domaines de la vie, mais je pense que c'est encore plus vrai dans le domaine spirituel, en matière de foi. Et ça concerne tous les chrétiens, ça concerne aussi en particulier les personnes qui sont en situation de responsabilité dans l'Église, mais aussi dans les œuvres chrétiennes, dans des associations, dans des mouvements, pasteurs, anciens, responsables d'études bibliques, conseillers en relations d'aide, animateurs de flambeaux, d'écoles du dimanche, de groupes de jeunes. Faisons attention à ne pas utiliser la position dans laquelle on est pour forcer ou pour manipuler, parfois peut-être sans s'en rendre compte. Et encore moins en utilisant le nom de Dieu, comme l'a fait ce vieux prophète. Alors, il y a un équilibre à trouver. Bien sûr, oui, nous sommes appelés à enseigner, à proclamer, à expliquer, à présenter le message de l'Évangile en utilisant notre intelligence, en utilisant aussi la parole que Dieu nous a donnée. C'est comme ça que l'Évangile s'est répandu. Lisons les discours de Pierre, les prédications de Paul. Oui, il faut proclamer l'Évangile. Et oui, il est possible aussi d'avoir une révélation spéciale. Il est possible d'avoir des visions de la part de Dieu, d'avoir une parole prophétique. Mais non, aussi bonnes que soient nos intentions, jamais, jamais nous n'avons le droit de prendre un ascendant spirituel sur quelqu'un. Jamais nous n'avons le droit de le manipuler, de mentir pour arriver. On dit « oui, mais c'est pour le bien de la personne ». Non, non. Agir ainsi, c'est faire un abus spirituel. Et notre manière de faire, notre manière d'annoncer l'Évangile doit être cohérente avec ce que nous croyons. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de l'autre. Ça, c'est le point de vue du vieux prophète. Et si on regarde maintenant le jeune prophète, la question, ce n'est pas de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour convaincre, mais c'est de savoir en qui nous plaçons notre confiance. Alors, il est difficile de connaître les intentions des personnes et il ne faudrait pas tomber dans une sorte de méfiance générale, de soupçon, de défiance. On est appelé aussi à faire confiance. L'amour, il croit tout, espère tout. Mais il faut aussi être averti et vigilant. Comment faire pour être averti et vigilant? La première chose, je pense, c'est d'avoir... Alors, je dis la Bible, je fais comme ça, mais voilà. Souvent, on utilise aussi des Bibles en papier, mais la Bible, elle est souvent sur nos téléphones maintenant. Je pense que la première chose, c'est d'ouvrir la Bible dans laquelle Dieu se révèle, la lire, y réfléchir. C'est, je pense, la démarche essentielle. Mais vous direz, oui, mais tout n'est pas clair dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qui sont claires, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires. Il y a des choses où les gens ne sont pas d'accord entre eux, il y a des interprétations. Eh bien, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et dans ce cas, quand on n'est pas forcément convaincu, la première chose à faire, c'est de prier, de demander à Dieu de nous éclairer par son esprit. Et puis de demander aussi des avis à des amis qui sont proches, à des responsables de l'Église, à des responsables de groupes, de jeunes. Lire des ouvrages, regarder une vidéo sur le sujet. Des ouvrages, des vidéos, des personnes, je dis bien des, pas une. Il faut savoir s'entourer, je pense, de plusieurs avis et pas vouloir suivre ce que dit uniquement tel pasteur, telle église, tel prédicateur sur YouTube, ou que sais-je. Et avant toute chose, plongeons-nous dans la parole de Dieu. On va maintenant lire le troisième et le dernier acte de ce récit, de cette histoire. On va afficher le texte. Comme ils étaient assis à table, la parole du Seigneur parvint au prophète qui l'avait ramené. Et il cria vers l'homme de Dieu qui était venu de Juda.
Ainsi parle le Seigneur. Parce que tu as été rebelle aux ordres du Seigneur et que tu n'as pas observé le commandement que le Seigneur ton Dieu t'avait donné, parce que tu es revenu et que tu as mangé et bu, au lieu dont il t'avait dit « Tu n'y mangeras rien, tu n'y boiras rien, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes pères. »
Après qu'il eut mangé et bu, il scella l'âne pour le prophète qu'il avait ramené, et celui-ci s'en alla. En chemin, il rencontra un lion qui le tua. Son cadavre fut jeté sur le chemin, l'âne se tenait à côté de lui, et le lion aussi se tenait à côté du cadavre. Des passants virent le cadavre jeté sur le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand le prophète qu'il avait ramené du chemin l'a pris, il dit
« C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle aux ordres du Seigneur. Le Seigneur l'a livré au lion qui l'a tué en lui broyant les os, selon la parole que le Seigneur lui avait dite. »
Puis il dit à ses fils
« Scellez-moi l'âne. »
Ils le scellèrent. Il partit et trouva le cadavre jeté sur le chemin, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas broyé les os de l'âne. Le prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur l'âne et le ramena. Le vieux prophète rentra dans la ville pour se lamenter et l'ensevelir. Il déposa son cadavre dans son tombeau et en fit sur lui la lamentation « Quel malheur, mon frère !» Après l'avoir enseveli, il dit à ses fils
« Quand je serai mort, vous m'ensevelirez dans le tombeau où est enseveli l'homme de Dieu. Déposez mes ossements à côté de ses ossements. Car elle se réalisera la parole qu'il a criée par la parole du Seigneur contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. »
Voilà la fin de notre histoire. Là, il y a une tournure dramatique, terrifiante. Dieu qui n'était pas présent dans le deuxième acte, hein, où il y avait juste cette relation entre le jeune et le vieux prophète, il réapparaît dans le récit, et il apporte un jugement. Et quelle sanction ? La mort. Alors je pense qu'on peut se poser beaucoup de questions en lisant ce texte. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas grâce au jeune prophète, comme il a fait grâce au roi, Jéroboam ? Pourquoi est-ce que c'est le jeune prophète qui est le seul à être puni, alors que c'est le vieux qui avait été le mentor, le tentateur ? Pas facile, hein, forcément, de répondre. Mais là encore, je pense que le thème de la parole du Seigneur peut nous aider à comprendre ce qui se joue ici. J'aimerais d'abord noter que, cette fois, Dieu s'adresse au vieux prophète, de manière véridique. Ce qu'il va annoncer aux jeunes est quelque chose qui va s'accomplir, alors qu'un peu plus tôt, il a menti. Je pense que ça nous rappelle que les situations, les personnes, c'est souvent plus complexe. On aimerait bien se dire, le vieux prophète, c'est un faux prophète, effectivement, il a menti, donc c'est une fausse prophétie. Mais ce n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire que Dieu va quand même aussi l'utiliser pour s'adresser aux jeunes prophètes. Souvent, les situations sont un peu plus complexes, les personnes sont plus complexes. On peut, nous-mêmes, tomber un jour et être dans le chemin de Dieu le lendemain. La deuxième chose, c'est que ce qui arrive au jeune prophète, c'est en fait la même vérité que ce qui s'est appliqué au roi au tout début de notre récit. Si la parole de Dieu s'accomplit et ne reste jamais sans effet, si elle s'accomplit et ne reste pas sans effet, pour un roi qui désobéit à Dieu, à plus forte raison, elle va aussi s'accomplir et ne pas rester sans effet pour un prophète qui désobéit à Dieu après avoir dénoncé la désobéissance du roi. Vous voyez le... Alors on peut être surpris par la sévérité de la sanction, par son immédiateté, mais Dieu reste juste dans toutes ses décisions. Que retenir de ce récit où on voit la parole de Dieu et la parole humaine qui interagissent ? La parole du Seigneur d'abord, la parole de Dieu, est-ce qu'on la reçoit pour ce qu'elle est ? Elle est toujours parole de vie, même si parfois elle est parole de jugement. La parole du Seigneur est toujours bonne. L'acceptons-nous dans nos vies, la recevons-nous dans nos cœurs? Cette parole qui a été fixée dans 66 livres qu'on a réunis ensemble, qu'on appelle la Bible, et ce contenu, ces 66 livres nous révèlent Dieu, nous révèlent Dieu en Jésus, nous révèlent Dieu dans l'Esprit, dans le Père. Lire la parole de Dieu, la méditer, nous permet aussi à l'Esprit d'agir en nous et d'affûter notre discernement, d'affiner notre discernement spirituel. La parole humaine, ensuite, celle que nous recevons des autres, ne la mettons pas sur le même plan que la parole de Dieu. On a besoin de la parole des autres. On a besoin, voilà, des paroles d'encouragement, d'amour, parfois de mise en garde. La parole des autres est importante, elle est nécessaire, elle est utile, mais elle est également faillible, même avec les meilleures intentions. Et la parole que nous donnons aux autres, refusons la manipulation et le mensonge, refusons d'utiliser Dieu pour arriver à nos fins. Si pour conclure, on essaye de regarder un peu vers l'avenir, au-delà de cette journée tragique à Bethel en 925 avant Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit dans le livre des Rois que Jéroboam ne change pas d'attitude et que la parole de Dieu va effectivement s'accomplir. Il n'aura pas de dynastie. Et si on porte nos regards encore plus loin, bien plus loin que l'époque de Jéroboam, on aperçoit un homme dans le désert, un homme qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu, comme le jeune prophète, un homme qui va rencontrer quelqu'un qui va utiliser la parole de Dieu pour le manipuler et le tenter, comme le jeune prophète. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? De Jésus, oui. Jésus aussi a été tenté. Et le Satan, qui était en face de lui, a utilisé justement la parole. Il a dit, il est écrit que... Et comment Jésus a-t-il répondu? Il a répondu en citant des passages de l'Écriture, en s'appuyant sur la parole de Dieu, en exerçant un discernement pour déjouer les intentions mauvaises de ce tentateur. Et après la tentation, les évangiles nous parlent du ministère de Jésus qui a allé proclamer l'évangile pendant 2-3 années dans toute la Palestine. Et de quelle manière Jésus a-t-il agi? Est-ce que Jésus a cherché à convaincre à tout prix? Est-ce que Jésus s'est imposé? Est-ce qu'il a forcé la main aux gens qu'il rencontrait, souvent des gens qui venaient le voir? Est-ce qu'il a manipulé les foules? Est-ce qu'il a manipulé les individus? Non, non. Jésus n'est pas tombé dans le piège de la manipulation. Il aurait eu d'excellentes raisons. Jésus, c'est Dieu qui est venu sauver. C'est le salut en jeu. Et Jésus a toujours montré le souci de laisser ses interlocuteurs cheminer et prendre eux-mêmes les décisions. Jésus propose, Jésus interpelle, Jésus provoque parfois. Je veux dire, c'est pas neutre, c'est pas non plus quelque chose, c'est pas de la guimauve. Hein, c'est quelque chose qui est un message qui est percutant, mais qui est jamais dans la manipulation ni dans le fait de s'imposer. Alors sachons dans nos relations, nous inspirer de la manière dont Jésus a utilisé la parole de Dieu pour résister à la manipulation et aussi pour la manière dont il a utilisé sa parole d'homme pour partager l'évangile. Et ma prière, c'est que nous puissions nous laisser transformer par l'Esprit dans ce domaine. Je vous invite à la prière.